Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, nous sommes sur microrebelle.fr dans l'émission Débattre la campagne, une émission que nos amis de Radio Plus diffusent également chaque mardi soir à 18h. Donc, Radio Plus, c'est la radio du bassin minier et de l'Artois. Et donc, c'est notre émission Débattre la campagne. Vous la connaissez maintenant depuis plusieurs semaines. Elle a pour point de départ le fait de donner la parole à des collectifs, des personnes qui sont investies ou pas dans la campagne électorale, celle des présidentielles qui vient de s'écouler et celle des législatives à venir, de façon à en percevoir les enjeux. Micro-Rebelle est une radio qui s'engage, qui s'engage notamment pour une certaine transformation sociale. Et donc, on a souhaité, dans ce contexte-là, donner la parole, situer les enjeux de ces différentes campagnes. On a déjà reçu plusieurs collectifs et aujourd'hui, on est de nouveau avec la France Insoumise et notamment les groupes d'appui de Béthune et de Bruay de la France Insoumise. Je suis avec Arnaud, Bruno et Gauthier. On va les laisser se présenter. Et on est parti pour essayer d'explorer. Le deuxième tour vient juste de se terminer. Emmanuel Macron est désigné président de la République. La campagne législative va s'engager, hein. Les législatives se tiennent le 4 et 11 juin, le 11 et 18 juin prochain, pardon, excusez-moi pour l'erreur. Et donc, c'est l'occasion de peut-être de faire un point de ce qui s'est écoulé, puis de ce qui va se passer maintenant. Alors, je disais, Arnaud, Bruno et Gauthier sont avec nous. Je vais les laisser se présenter, un peu situer peut-être qui ils sont, quelles sont leurs activités, et puis on approfondira un peu plus leur engagement au sein de la France Insoumise. Je te laisse commencer, Arnaud.
Bien, bonjour Lucien, bonjour aux auditeurs de Micro-Rebelle. Bon, je me prénomme Arnaud, j'ai 59 ans. Je suis sur la ville de Bruay, installé sur la ville de Bruay maintenant depuis 2 ans. Et je suis l'initiateur du groupe de la France Insoumise de Bruay et des communes environnantes de Bruay. Voilà.
Je te remercie. Donc, à côté de toi, il y a Bruno. Alors Bruno, si tu peux nous donner peut-être quelques éléments de qui tu es.
Bonjour à tous, bonjour Lucien, Bruno Torel, j'habite Béthune. Je suis salarié dans une sidérurgie à Isberg. Je suis aussi délégué syndical dans cette entreprise et je suis au démarrage de Béthune France Insoumise.
Merci Bruno. Et donc notre troisième invité, c'est Gauthier. Je te laisse te présenter, Gauthier.
Bonjour à tous, bonjour Lucien. Gauthier, moi j'ai 32 ans. Je suis informaticien au chômage et je suis bruésien pure souche. J'ai été élevé à Bruay et aujourd'hui dans la France insoumise pour activement participer à la campagne et à la transformation de notre vie politique.
Bien, merci à tous les trois. Merci de participer à cette émission Débattre la campagne sur microrebelle.fr et sur Radio Plus 104.3. On va peut-être commencer peut-être par un petit historique, hein. Arnaud, je pense savoir, tu nous l'as dit en aparté, que tu es à l'origine de la création de ces deux groupes d'appui. Est-ce que tu peux peut-être nous resituer historiquement ce qui
Oui.
s'est passé, comment ça s'est passé, qui a été impliqué, hein. Je crois que c'est pas inintéressant pour nos auditrices et auditeurs de bien comprendre un petit peu les aspects humains, les aspects engagement de chacune et de chacun.
Oui, alors la France Insoumise est un mouvement maintenant qui a un peu plus un an d'existence et peu de temps après son démarrage et avec l'aide effectivement d'une plateforme informatique assez optimisée. Cette plateforme nous a permis de créer localement des groupes d'appui à l'action de Jean-Luc Mélenchon et autour d'un thème qui est l'avenir en commun, qui est aujourd'hui le programme de la France Insoumise. Et la liberté était donnée à chacun de constituer son groupe d'appui localement, avec la possibilité de se réunir, d'échanger autour du thème de la France Insoumise. C'était avant tout effectivement un mouvement citoyen, républicain, et également un lieu de débat entre nous. Donc j'ai pris l'initiative de ce groupe d'appui il y a un peu plus d'un an maintenant. Très rapidement, ce groupe d'appui s'est intensifié par la venue de nouveaux membres. Et très rapidement, il a constaté qu'il était indispensable pour nous d'éclater ces groupes d'appui pour permettre un meilleur échange, quelque chose de beaucoup plus fluide dans la communication et dans le débat, d'éclater en plusieurs groupes d'appui. C'est la raison pour laquelle s'est constitué d'abord le groupe d'Auchel, il me semble, hein, si je ne me trompe pas. et ensuite un groupe à Saint-Omer, et ensuite un groupe à Béthune.
À partir du même groupe initial.
À partir du même groupe initial, tout à fait.
Tout ça parce que il y avait du monde.
Il y avait trop de monde.
Qui était réparti sur des territoires différents.
Exactement, exactement. On a vu apparaître des gens qui venaient de Saint-Paul, des gens de Béthune, des gens de d'Anzin, des gens un peu partout. Et très rapidement, comme on avait l'objectif pour nous d'assurer la victoire de notre candidat Jean-Luc Mélenchon, on n'est pas perdu de vue également qu'il s'agissait pour nous d'emporter le plus possible de candidats à l'occasion des élections législatives. C'est pour la raison pour laquelle on a éclaté un peu nos groupes d'appui plus en rapport avec les cantons et les circonscriptions.
Très bien. Bon, déjà, on le voit autour de la table. Hein. On a un travailleur syndicaliste, on a un informaticien demandeur d'emploi. Peut-être, est-ce qu'on peut avoir une photographie de qui est dans la France insoumise aujourd'hui ? Même si on a déjà une petite diversité, il manque peut-être des femmes hein, autour de la table. Bon, je pense qu'il y en a dans les groupes d'appui. Peut-être, oui. Est-ce qu'on peut avoir une idée de qui compose ces groupes d'appui hein, donc Arnaud et Gauthier pour le groupe de Bruet, Bruno pour le groupe de Béthune, une petite photo de ce qui se passe. Bruno.
Oui, c'est Bruno. Hein. Donc, y a toutes catégories socioprofessionnelles qui sont présentes, hein, je dirais. Et aussi, on a beaucoup de militantes femmes. Ils ne sont peut-être pas nombreuses ici, mais dans les réunions, hein, de circonscription, ça, on a beaucoup de militantes femmes. Qu'est-ce que je peux encore dire le nombre, oui, hein, sur Béthune, c'est composé à peu près d'une quarantaine de personnes. Alors, je parlais des femmes, mais je parle aussi des jeunes.
Oui.
On a beaucoup de jeunes, jeunes dans la moyenne d'âge, entre 20 et 25 ans, où ils sont là et ils sont actifs. Et puis, ces personnes ont très bien compris le programme. Ces personnes ont très bien lu le programme, et je dirais même qu'ils l'ont mieux compris que nous, parce qu'ils l'ont lu ligne par ligne. Et ils sont aussi demandeurs de beaucoup de questions sur le programme. Et ils savent en débattre sur les marchés. On a fait le marché de Béthune, on a fait le marché de Lillers, on a fait le marché d'Auchelles. Et les jeunes se défendaient très bien pour expliquer le programme des Insoumis.
Gauthier, peut-être pour nous présenter le groupe d'appui de Bruet, comment tu le vois, les participants, les participantes. Est-ce qu'on a la même réalité qu'à Béthune?
Alors moi, évidemment, je suis partie des jeunes qui ont rejoint ce groupe relativement récemment, au moment du début de la campagne présidentielle, donc en 2017. Une photographie donc de ce groupe est un peu difficile, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui viennent de catégories socio-professionnelles très diverses, des gens de tous âges, des femmes... Des hommes, là justement on a le renfort d'un jeune aussi qui est sorti d'études, qui souhaite aussi activement s'impliquer. Je connais pas personnellement toutes les personnes, mais l'association justement de nos différentes couleurs, à la fois professionnelles et sociales, fait un mélange relativement intéressant. J'ai pas d'exemple bien précis à vous apporter.
Très bien. Arnaud ?
On peut peut-être ajouter également, c'est vrai qu'il est toujours de bon ton dans un parti, dans un mouvement, de prétendre effectivement à ce que toutes les couches sociales, toutes les catégories socio-professionnelles soient représentées. Pour ma part, on s'est rapidement aperçu à l'occasion des élections présidentielles que si notre mouvement, lui, était composé de gens d'horizons divers, hein, on trouve des jeunes comme des retraités, des cadres de la fonction publique, en retraite ou pas, des cadres supérieurs également, des ouvriers, des commerçants, des gens qui venaient de tous horizons, de tous bords sociaux. Et ce n'est pas forcément le cas de tous les partis politiques qui sont aujourd'hui des partis traditionnels. Hein, notamment pour ce qu'on peut connaître de l'électorat, par exemple des Républicains, de l'électorat également du Parti Socialiste, on peut, pour ce qui nous concerne, prétendre effectivement couvrir une large étendue de tout le spectre social.
D'accord. Alors, peut-être une question au-delà de la représentation de ce que tu appelais le spectre social. Mmh. Peut-être dans l'histoire de chacune et de chacun de ces insoumis et de ces insoumises, est-ce que ce sont des personnes qui étaient engagées par ailleurs, qui ont été engagées, puis qui ont fait une parenthèse, puis qui reviennent avec la France Insoumise, ou qui découvrent un petit peu l'engagement? Quelle est la
petite photo ? À l'exception de quelques-uns qui pouvaient avoir eu dans le passé une activité ou politique ou une activité syndicale, on peut aujourd'hui prétendre qu'à 95%, le mouvement de la France insoumise, enfin, pour ce qui concerne les groupes qui nous occupent aujourd'hui, sont composés exclusivement de gens qui n'ont eu aucun passé militant.
Alors justement, quel est leur ressort ? Qu'est-ce qui fait que des gens qui n'ont pas d'engagement antérieur ont envie de s'investir au sein de la France insoumise avec le résultat qu'on sait ? Parce qu'il y a eu effectivement un résultat qui est indéniable, un résultat qui passe par une mobilisation de terrain, on pourrait y revenir. Hein.
Alors, je crois.
Quel est leur ressort ? Quel est le moteur ?
Je crois que ce qui est le moteur, c'est que l'initiative qui a été prise par Jean-Luc Mélenchon à l'origine, c'était de créer un mouvement et non pas un parti. Effectivement, ce qui permettait aux gens de se sentir un peu plus libres dans l'adhésion aux idées, du projet, du programme, effectivement, et également quelque chose de contributif, c'est-à-dire de pouvoir apporter, à partir du débat dans un groupe d'appui, dans un groupe d'échange, dans un groupe d'idées, avoir à construire quelque chose de réel qui s'appelle aujourd'hui l'avenir en commun. Voilà. Donc c'était quelque chose où on mettait à contribution les gens qui nous rejoignaient, où on ne leur posait aucune question sur leur passé militant, leur passé politique. C'était un peu l'open bar, quoi. Tout le monde pouvait participer à notre mouvement. Bon, il y a des gens, quelques rares exceptions, effectivement, qui nous ont quittés, mais ça fait l'adhésion très rapidement. Et on avait un but unique aujourd'hui. Enfin, on avait un but unique, c'était de parvenir à l'élaboration de notre programme.
Gauthier ?
Alors, je ne sais pas si je suis représentatif, mais je pense correspondre un petit peu au profil des jeunes non politisés qui, finalement, se sont intéressés au travers des turpitudes de la vie. J'ai, pour ma part, une enfant depuis peu et un travail qui m'a un peu contraint. Et donc, cette volonté de se débattre dans ce marasme social et en l'avenir en commun, justement, à sa lecture. Je vais pas dire que c'est forcément mon livre de chevet, mais en tout cas, je pense que de nombreux jeunes qui attendaient justement la possibilité d'avoir de pouvoir prendre la parole tout simplement, une prise de parole citoyenne et non étiquetée. Finalement, au travers de la France insoumise, c'était pour ainsi dire, le seul mouvement qui permettait cela. Et avec à la clé, justement, un programme solide, construit et basé sur des valeurs humanistes, de partage et qui ne stigmatise personne et qui réclame tout simplement un peu de décence à la grande finance dans ces temps difficiles.
Très bien. Alors justement, tu évoques, Gauthier, le programme, hein, l'avenir en commun. Bruno, tout à l'heure, évoquait également le fait que beaucoup de jeunes avaient lu ligne par ligne, hein, le programme. Peut-être, est-ce que on peut revenir, hein, pour nos auditrices et nos auditeurs, sur comment ça fonctionne un groupe d'appui ? On se réunit tous les combien, on distribue des tracts, on étudie le programme. Enfin, comment ça se vit, comment elle s'est vécue cette campagne présidentielle ?
Alors, cette campagne, elle s'est déroulée en deux temps, enfin, pour ce qui concerne les groupes d'appui. Le premier temps était un temps de réunion, un temps d'échange, un temps de débat autour de notre projet.
Ça veut dire qu'on est autour d'une table, c'est ça ?
Exactement.
On est chez quelqu'un, on est une salle ou
À l'origine, effectivement, les réunions se faisaient chez quelqu'un, mais ça a très vite disparu, compte tenu du fait que les groupes ont
explosé
en taille, donc ce n'était plus possible. Aujourd'hui, on a des solutions alternatives, notamment des lieux tels que les bars, les restaurants, enfin les cafés ou... café littéraire, par exemple, où on...
C'est important de réinvestir les cafés. Hein.
Oui, tout à fait. Et on y tient, nous, réinvestir les cafés. Et c'est la raison pour laquelle on n'a pas fait le choix de louer, comme d'autres, effectivement, des salles communales ou autres. On préfère de réinvestir, effectivement, les lieux publics et les lieux de convivialité, comme les bars ou les cafés. Voilà. Donc ça, c'était le premier temps. Le second temps, c'était le temps d'action pour nous. Dès lors que le programme avait été élaboré, validé par les Insoumis de France, il était temps pour nous de passer à l'action dans le cadre de la campagne présidentielle. Et là, j'avoue que les réunions se sont faites plus rares, mais néanmoins, effectivement, les échanges ont perduré avec les moyens bien de disposition, téléphone, mail, réseaux sociaux, qui nous ont permis de tisser quand même, de maintenir ce lien entre nous, mais surtout d'être dans l'action, c'est-à-dire sur le terrain. On a été très présent sur les marchés, beaucoup de distributions de tracts sur les communes, du Bruésie, du Béthunois, hein, d'Auchelle, d'Isberg, Burbure. On est allé vraiment très très loin dans notre rayon d'action. Et ensuite, effectivement, le collage d'affiches, des choses comme ça, puis des rencontres, des discussions avec les ouvriers à la sortie des usines, avec le personnel hospitalier, voilà. C'était surtout ces deux temps, hein, le temps d'échange, de débat et le temps d'action.
Bruno ? Ouais,
surtout pour les réunions, hein, une voix pour vaut pour un. Mmh. C'est-à-dire que chaque personne a le droit à la parole et peut s'exprimer quand il veut, comme il veut, de sa façon aussi, où il veut. Hein. Chacun peut discuter différemment et tout le monde écoute et il y a une décision qui est prise à la fin.
Alors justement, Bruno, puisque tu interviens pour parler de ce type de pratique, toi, dans ton entreprise, hein, aussi en tant que syndicaliste, est-ce que tu as aussi une action auprès de tes camarades travailleurs, de tes collègues, ou est-ce que c'est deux choses différentes, l'engagement dans les quartiers et l'engagement dans l'entreprise ?
Non, ben, un peu la politique de l'entreprise, on ne peut pas l'exercer. Hein. Il y a quand même le congrès d'Amiens qui nous dit séparation des syndicats, de la politique.
D'accord.
Donc ce qu'on respecte, hein. Mais rien ne m'a empêché dans mes jours de repos, ma vie privée, de militer pour la France Insoumise. Donc distribuer les tracts à la sortie d'entreprise, oui.
D'accord.
Les personnes qui m'en parlent dans la société, je discute, mais pas beaucoup plus loin.
D'accord. Hum. Mais il y a ce que dit Arnaud, effectivement, il y a eu des distributions de tracts auprès des travailleuses et des travailleurs dans ton entreprise, à la société des hôpitaux. Enfin,
oui, ben, ce qu'on a fait, c'est on a fait l'hôpital de Beuvry, par exemple, sur Béthune, l'hôpital de Beuvry. On a fait Bridgestone, on a fait McKen, donc ThyssenKrupp, c'est Aperam sur Isberg, d'autres sociétés, et les marchés qu'on a expliqué tout à l'heure, les marchés, la STA, du côté de Beauvais.
D'accord. Et donc les engagements de chaque insoumise ou insoumis sont différents en fonction de « je suis disponible tel jour », ça se passe comment,
oui,
ça ?
Oui, ça marchait sur le net, en général c'est sur le net, par mail, hein. Dire les actions qu'on menait dans le coin et les personnes qui étaient disponibles, parce qu'on n'a pas disponible, il y a les salariés, hein, qui ne sont pas toujours disponibles, hein. Par exemple sur le marché de Béthune, c'est le lundi matin, donc les personnes bossent, ceux qui étaient disponibles, ou même prise de congé, hein, les personnes prenaient les congés, pour pouvoir faire l'action, je veux dire, sur le marché de Béthune.
On peut peut-être également parler de la plateforme en elle-même, la plateforme d'échange qui a été élaborée par la France Insoumise, hein, la plateforme qui est JLM.
Donc au niveau national. Hein.
Tout à fait, qui est également un lieu d'échange, mais un outil dans l'organisation de notre travail. Hein, ça nous permet de faire connaître les actions que nous allons mener, à quelle échéance, et de pouvoir informer le plus grand nombre d'entre nous effectivement sur ces actions. Donc c'est également un modèle d'organisation dans l'action.
Très bien. Je dois dire qu'à titre personnel, au nom de Micro Rebelle, je me suis servi de la plateforme pour contacter les différents insoumis. Pour moi, ça a été assez pratique, hein, je dois le dire. Moi, ce que j'ai noté aussi, Gauthier, c'est peut-être un angle d'attaque qui me semble intéressant, c'est finalement, toi, à titre personnel, c'est le fait de vivre une certaine, je ne sais pas si je vais dire exploitation, mais enfin, une certaine difficulté dans ta vie sociale qui fait que tu t'es dit, je m'engage, je réagis. C'est un petit peu...
c'est assez bien résumé, oui, en effet.
Ce type de ressort, quoi.
Bon, cette fibre, cette politique, je l'ai toujours eue. Cette branche à laquelle me raccrocher, je ne l'ai jamais vraiment trouvée. Sauf en 2017, après avoir passé justement par des périodes de doute. Moi, je fais partie de ces gens qui n'ont pas de carrière en soi professionnelle qui démarre. Et donc, au sein de mon entreprise, j'ai pu me rendre compte de ce que c'était vraiment le travail, les conditions de travail, les choses à améliorer. J'ai eu l'occasion d'en parler, puisque j'étais délégué du personnel et élu CHSCT, par exemple. Mais bon, évidemment, le dialogue en entreprise est souvent un peu muselé et l'exercice de la démocratie est très compliqué. Donc évidemment, mes antécédents un peu rebelles justement ont refait surface et la volonté de prendre à bras le corps et de me dire qu'après tout, c'est déjà par moi que commence la révolution citoyenne que Jean-Luc Mélenchon essaye de porter. Lui, il est peut-être comme il aime à le dire, peut-être en fin de carrière, et c'est à nous à prendre la suite, et à nous, du coup, pendant ce laps de temps, à apprendre le plus des anciens, des gens justement qui ont une carrière reluisante ou non, en tout cas des expériences de la vie qui sont profitables au plus grand nombre, et ensuite à nous à nous approprier, nous notre génération justement, à prendre la succession pour que vive justement la vraie démocratie.
Très bien, eh bien, merci Arnaud, merci Gauthier, merci Bruno. On va s'interrompre quelques minutes pour une petite pause musicale. Donc on est toujours sur l'émission Débattre la campagne, diffusée sur microrebelle.fr et sur Radio Plus 104.3. On va diffuser un peu de musique. Vous savez que sur Microrebelle, on ne diffuse que de la musique libre. Autrement dit, une volonté de faire découvrir des créateurs qui ne souhaitent pas verrouiller leur création. Et donc là maintenant, c'est une chanteuse argentine qui s'appelle Ana Moly et qui nous interprète Gracias y de nada. Je vous retrouve tout à l'heure.
Sin mirar, sin querer hablar de nada, de nada. Pedalear hasta el mar sin querer pensar en nada. Solo me escribo una canción que sale de mis ganas de rebobinar, que sale de mis ganas de que ya no pase nada. Allá me espera la levedad, quiero ser parte de esa nada. Esas gracias que me dan. Yo te respondo nada, de nada.
De nouveau sur microrebelle.fr et sur Radio Plus 104.3. Nous sommes avec la France Insoumise, Arnaud, Bruno et Gauthier. On a évoqué la vie des groupes d'appui avec la diversité de leurs participantes et participants. Alors, peut-être j'avais envie de revenir sur un point qui a été évoqué précédemment, c'est la question du programme. On a évoqué le fait que par exemple, les jeunes insoumises et les jeunes insoumis avaient étudié le programme, l'avaient décortiqué, le connaissaient même mieux que d'autres, de façon à pouvoir en parler et puis de façon à pouvoir le promouvoir et le défendre. Est-ce que, pour nos auditrices et nos auditeurs, on peut, sans forcément être exhaustif, ce ne sera pas possible dans le cadre de l'émission, mais est-ce qu'on peut, Arnaud, Bruno, Gauthier, évoquer peut-être les axes saillants, les grandes thématiques de ce programme, justement ? Arnaud ?
Alors déjà, un thème principal et ce qui a fait surtout débattre abondamment sur le programme L'Avenir en commun, c'était pour nous la réforme des institutions et plus particulièrement la création d'une constituante qui devrait nous amener à la création d'une 6ème République, c'est-à-dire une nouvelle constitution. C'est très vite apparu comme nécessaire et c'est vraiment un point d'orgue du programme. Dans la mesure où on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la Constitution qui a été écrite en 1958 et qui est toujours d'actualité aujourd'hui, est surtout une Constitution de type présidentiel, et j'oserais même dire aujourd'hui monarchique, de type monarchique, qui ne permet pas aujourd'hui réellement d'envisager une évolution de la société. Elle est complètement verrouillée, elle donne beaucoup de droits à peu d'hommes, elle n'est pas un lieu, elle ne permet pas effectivement le débat au sujet des institutions, et c'est pour la raison pour laquelle effectivement il nous est apparu très vite qu'il fallait créer une constituante. Voilà. C'est un thème fort du programme la 6e République pour nous.
Gauthier ?
Et ensuite, comme deuxième thème principal, d'ailleurs, qui a été assez snobé pendant cette campagne présidentielle, c'est l'écologie. Et dans le programme de l'Avenir en commun, ça passe par la transition écologique, donc des investissements publics de l'ordre de 100 milliards qui permettent à la fois d'agir pour le bien de la planète, mais aussi pour le bien des gens, par la création d'emplois substantiels. C'est vraiment un des maîtres mots du programme, de ne pas négliger ce bien commun, à inscrire aussi éventuellement dans la Constitution, hein, les biens communs, les protéger, et inscrire tout simplement cette règle verte dans la Constitution qui réclame à tout un chacun de ne pas prélever plus que ce que la nature ne peut restituer. Donc c'est notamment un des grands sujets qui permettent à la fois donc de préserver la seule maison que nous avons, nous, êtres humains, et aussi de permettre aux gens de mieux vivre avec la création nombreuse d'emplois et donc de résorber le taux de chômage.
Bono ?
L'exemple, hein, c'est Fessenheim, une centrale nucléaire. Hein, on allonge son droit de vivre plus longtemps, on va lui remettre des bouts de ficelle pour pouvoir la prolonger, alors que c'est dangereux. On peut, je veux dire, on a la connaissance, et en France, il y a assez d'ingénieurs pour travailler dessus, pour pouvoir se servir des marais sur les côtes, hein, 1800 km de côte en France, où on pourrait, par les allées-venues, hein, mettre de l'énergie suffisante pour ravitailler la France. Garder des centrales nucléaires où on sait à long terme, hyper dangereux, hein, on l'a déjà vu dans d'autres pays, hein, comme au Japon, en Russie, on a vu les dégâts que ça peut faire, et combien ça nous coûterait, les dégâts que ça pourrait faire. Combien le coût et combien de morts qui seraient derrière.
Bien, donc la question des institutions, hein, la question de la transition écologique, est-ce qu'il y a d'autres grosses thématiques saillantes que vous avez envie d'évoquer concernant ce programme ?
Je crois que tout le reste du programme tourne autour de ces deux thèmes essentiellement. Hein. Le problème de la nouvelle constitution pour nous, de cette 6e République, c'est aussi une république qui permettra une meilleure distribution des richesses, un meilleur partage du temps de travail. C'est surtout ça pour nous. Et l'autre thème, effectivement, la planification écologique, parce que je parle davantage de planification au sens industriel du terme, hein, la planification au sens industriel. C'est, comme le disait Bruno, effectivement, l'impérieuse nécessité pour nous de sortir du nucléaire. Hein, pour vos éditeurs, il est indispensable de savoir une chose. Dans un rayon de 60 km autour de Fukushima, en 24 heures, il a fallu évacuer 650 000 personnes. Auprès des centrales françaises aujourd'hui en activité, si on devait respecter ce même périmètre de 60 km, ce serait parfois plusieurs millions de Français qu'il faudrait évacuer. Donc il est important que les gens sachent qu'aujourd'hui, on vit aujourd'hui sur des dangers. Les centrales représentent effectivement un réel danger. Même si on doit penser aujourd'hui qu'elles sont un bienfait pour nous dans notre quotidien, hein, pour allumer la lumière, pour passer l'aspirateur, pour nos réfrigérateurs, c'est une nécessité, effectivement, la centrale nucléaire. Mais on ne doit pas perdre de vue qu'il est indispensable, plus que nécessaire pour nous, de sortir de ce mode de production énergétique.
Gauthier.
Surtout que les moyens sont là, en plus, pour permettre cette transition. Alors, fut un temps où, effectivement, les autres types d'énergie étaient difficilement maîtrisables. Aujourd'hui, nous avons les moyens, si le politique veut bien se donner les moyens, d'amorcer cette transition et de progressivement remplacer toutes les centrales nucléaires à terme par l'éolien, par l'hydrolien, par la géothermie et ce genre de technologies qui sont bien plus respectueuses de l'environnement. Donc c'est des choses à avoir à l'esprit. Il ne manque plus que la bonne volonté politique pour y arriver.
Très bien. Alors ça, c'était peut-être le programme dans le cadre de la campagne. Et ensuite vient le moment des élections en tant que telles. Donc un premier tour le 23 avril et puis le second tour hier, hein, puisque cette émission est enregistrée le 8 mai. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Donc premier tour, deuxième tour, hein, comment l'ont vécu les groupes? Qu'est-ce qui s'est passé après le premier tour?
Alors il y avait une réelle envie de, pour nous de voir effectivement nos idées arriver au second tour, hein, on ne va pas se le cacher, et qu'il y a eu un moment de flottement et d'un peu de déception, hein, le soir du premier tour, de ne pas voir notre candidat arriver au second tour. Ceci étant, la déception était vite balayée dans la mesure où il existait pour nous un autre objectif qui était l'élection législative. Voilà, donc nous sommes plutôt des gens qui vont de l'avant. Une élection se perd et les autres élections restent à gagner. Voilà, donc aujourd'hui, nous focalisons essentiellement sur les élections législatives.
Oui, Bruno.
En sachant que notre candidat et notre programme a fait au moins dans le bassin minier à peu près en moyenne 20%. Donc il y a quand même de dire il y a peut-être quelque chose à faire. Les gens ont peut-être pris conscience aussi. Et puis il faut qu'on continue nous à travailler et faire prendre conscience à tout le monde.
Et donc on peut peut-être rappeler quelques éléments en termes de résultats. Donc sur le bassin minier, effectivement, il y a un énorme vote Front National. Enfin, en tout cas, trop important, ça je crois qu'il faut lire. Tout de suite derrière, c'est la France Insoumise. Gauthier ?
Oui, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est en embuscade justement derrière le Front National. Et on le voit bien que la réponse au Front National, ce n'est pas justement les partis politiques, l'ancienne politique, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon qui s'adresse à tout un chacun, qui permet, avec des moyens simples et de la pédagogie, justement d'ouvrir un petit peu les œillères et qui permet aux gens de s'intéresser non plus à leur seule petite personne, mais d'y voir un petit peu plus loin et de se dire après tout oui qu'il est inutile de chercher des boucs émissaires, de chercher des raisons à leur mal-être et qu'il est temps justement de revoir de fond en comble les fondements de notre République.
Très bien. Alors on va aborder la question que tu évoques, Arnaud, les législatives, mais peut-être juste auparavant, j'avais envie de revenir sur ce qui s'est passé entre les deux tours. Qu'est-ce qui s'est passé dans les groupes, autrement dit, à la base, avec des guillemets, hein, c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, hein. Qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que vous avez vécu ça? Bon, tu évoquais une frustration, moi j'avais entendu aussi un coup de massue, parce qu'il y avait tellement eu un espoir au fur et à mesure où les sondages indiquaient une montée en puissance du vote de la France Insoumise, qu'effectivement, on peut tout à fait imaginer la grande déception, la grande frustration. Donc, le premier tour, on est le 23 avril, qu'est-ce qui se passe après? Comment ça réagit dans vos groupes d'appui?
Alors, chacun réagit à sa manière dans un groupe d'appui, comme on l'a fait savoir tout à l'heure. Les profils sont un peu différents, les motivations peuvent être différentes également. Et chacun a absorbé effectivement cette défaite de manière différente. Mais très très vite, on s'est aperçu que les gens avaient surmonté ce moment de déception pour réfléchir à la manière dont on pourrait maintenir en vie le mouvement de la France insoumise et continuer à voir nos idées et notre programme perdurer dans le temps. Voilà. Donc le débat était de savoir pour nous ce qu'il convenait de faire, de quelle manière et à quel moment. Voilà. Mais c'est vrai que la déception était intense sur certains, moins sur d'autres, parce que d'autres étaient un peu plus réalistes ou un peu plus convaincus qu'il aurait été difficile pour nous de faire battre le Front National, notamment sur le bassin minier, où aujourd'hui il est assez présent, compte tenu de la plus grande difficulté dans laquelle se trouve aujourd'hui une grande partie de la population du bassin minier, hein, qui était aussi délaissée depuis maintenant près de 30 ans par les élus locaux. Qui n'ont absolument pas pris conscience de la réalité des choses et qui se sont contentés ici et là de quelques cataplasmes sans mesurer la misère sociale dans laquelle la population était plongée.
Gauthier. Et on remarque que la déception est à la hauteur de l'espoir que suscite l'avenir en commun, la France insoumise. Et bon, moi, je fais partie de ceux justement qui pensent que l'élection la plus importante, c'est les législatives. C'est celle qui permet d'élire nos députés et potentiellement d'élire notre gouvernement. Et l'objectif aujourd'hui est vraiment là. On peut encore gouverner le pays en menant Jean-Luc Mélenchon à Matignon, tout simplement.
Très bien. Eh bien, donc, on va peut-être approfondir cette question. Comment ça se présente, alors, donc, ces législatives ? Il y a un processus pour désigner des candidats et des candidates. Il y a une visée, il y a des enjeux. Comment est-ce qu'on peut présenter cette question ?
Alors, déjà, l'essentiel, pour ce qui concerne les législatives, c'est d'avoir, pour ce qui nous concerne, des candidats dans chacune des circonscriptions. Voilà, ça, c'est le point initial de notre projet, c'est d'investir des candidats dans toutes les circonscriptions.
Donc, par exemple, peut-être pour situer, donc, ça, j'ai pas ça parfaitement en tête, donc je sais qu'il y a au moins une circonscription à Liévin, une à Lens, une à Hénin, une à Carvin.
Exactement.
Il y en a une à Béthune, c'est la même que Bruay, oui, c'est
deux, ah non, ce sont deux circonscriptions distinctes, la circonscription de Béthune, la 9e circonscription du Pas-de-Calais, et pour ce qui concerne Bruay, il s'agit de la 10e circonscription du Pas-de-Calais.
Donc vous êtes, en gros, vos groupes d'appui sont 9 et 10, sont concernés par la 9e et la 10e circonscription.
9e et 10e circonscription. D'accord. Du Pas-de-Calais, tout à fait.
Avec Auchel qui était la 8e.
Avec Auchel qui est dans la 8e, et Auchel, bon, règle les problèmes liés à l'investiture de ses candidats de son côté, mais c'est vrai qu'on est un petit peu en symbiose avec la 9e, puisqu'on partage les mêmes moments, les mêmes assemblées de circonscription, et ça se fait communément, ça se passe très très bien. Bon, alors, certains qu'on est parfois très nombreux, puisqu'on arrive à des réunions qui arrivent entre 40 à 50 personnes, il faut savoir un petit peu discipliner tout ça, hein, partager le moment où chacun doit s'exprimer, mais bon, ça se passe, hein, on a toujours travaillé de concert avec la 9e, pour ce qui nous concerne, et réciproquement, hein, c'est un moment de partage important pour nous, et ce soir, pour ne pas vous le cacher, à 19h, aura lieu sur Béthune, une assemblée de circonscription, qui aura pour la dernière fois à valider le choix des candidats titulaires et suppléants pour la 9e et 10e circonscription du Pas-de-Calais.
D'accord. Alors, ça veut dire, c'est ce qu'évoquait Bruno tout à l'heure, dont on dit chaque personne va profiter entre guillemets de sa voix pour indiquer ce qu'il souhaite.
Alors, dans un premier temps, il y a un appel à candidature. Hein. C'est un moment citoyen, hein, l'assemblée de circonscription pour nous. Hein. C'est un moment citoyen républicain où, dans lequel, effectivement, chacun peut s'exprimer, chacun peut faire preuve de candidature. Il peut se dire « je suis candidat comme titulaire, comme suppléant », motiver, bien sûr, sa candidature, se présenter aux autres, parce que ça nécessite quand même pour lui de faire savoir qui il est et ce qu'il entend faire dans le cadre du mandat qui lui sera confié. Et dans un deuxième temps, c'est un moment de débat, d'échange à partir des candidatures et un moment de vote également, puisqu'il nous faut, à l'issue de ce débat, choisir le ou la candidate qui sera le mieux à même de nous représenter dans la circonscription.
Très bien. Alors, peut-être, puisque tu parles de le ou la candidate, il faut peut-être préciser... Hein, donc il n'y a pas d'obligation de parité, hein, sur les circonscriptions.
Chez nous, c'est impératif.
Ah, c'est ça. Je veux dire, il n'y a pas d'obligation de parité au niveau législatif, légal, administratif, au niveau légal.
Absolument pas.
Mais chez vous,
chez
en
nous,
interne,
c'est une obligation.
Chez vous, c'est une obligation. Donc ça veut dire que...
De toute façon, il est, comme j'ai fait remonter un bon nombre d'insoumis, d'insoumises, il est impossible pour moi, personnellement, de faire remonter un binôme vers le comité électoral de la France Insoumise s'il ne s'agit pas d'une parité parfaite, c'est-à-dire homme-femme.
Homme-femme, très
d'accord
bien.
D'accord. Alors, peu importe, on préfère, nous, avoir des candidats titulaires femmes. Hein. On va avoir beaucoup plus de candidates. Bon, il est évident que les circonstances de la vie font qu'on est davantage confronté à des candidatures masculines. Hélas, on le regrette. Mais de toute façon, un binôme, hein, c'est-à-dire titulaire et suppléant, ne peut être parfait que dès lors qu'il s'agit de deux candidats de sexe différent.
On peut peut-être préciser, enfin, je pose des questions au fur et à mesure où elles me viennent, peut-être préciser que, comme vous avez décrit un peu les groupes d'appui avec des personnes... qui s'engage pour la première fois, oui, hein, à l'occasion de cette campagne, qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans la France Insoumise qui est connu localement. Il n'y a pas de notable, il n'y a pas de...
Tout à fait. Tout à fait. Et bien, c'est bien de le souligner, d'ailleurs, parce que c'est ce qu'on recherche, nous, essentiellement dans les candidats, c'est d'être en rupture avec le monde politique tel qu'on connaît habituellement. On souhaite des candidats neufs, des candidats qui ont un œil nouveau, qui ont une vision neuve, effectivement, sur la politique, et qui peuvent tirer de leur expérience professionnelle, leur expérience associative, leur expérience sur le terrain, pour assumer des fonctions au sommet, hein, c'est-à-dire comme député. Je pense que c'est une vision un peu nouvelle de la démocratie et de la République.
Très bien. Peut-être juste avant qu'on s'interrompe pour une deuxième pause musicale, Peut-être rappeler la 9e et la 10e circonscription. Aujourd'hui, c'est le Parti Socialiste. Et...
Alors, aujourd'hui, pour la 10e circonscription, le candidat sortant est Serge Jeanquin.
Donc, Parti Socialiste.
Investi, effectivement, précédemment par le Parti Socialiste. Il s'agissait pour lui de son 5e mandat. Et ce n'est pas une discrétion, puisque la presse en est fait l'écho. Le candidat qu'il remplacera est M. Bernard Caillot, qui est le maire de la Bussière.
D'accord.
Qui représentera le Parti Socialiste.
Et sur Béthune.
Sur Béthune.
Alors sur Béthune, hein, c'est M. Stéphane Saint-André.
Très bien.
Qui est là, qui a été élu.
Donc Parti Socialiste lui aussi.
Hein. Aussi, qui était André Flageolet.
Maire de Saint-Venant. Hein.
Maire de Saint-Venant.
D'accord. Très bien. Eh bien. On va reprendre un peu cette discussion dans quelques minutes, hein, juste après une autre pause musicale. Hein. C'est encore de la musique libre. Cette fois-ci, on vous propose du rap. C'est explicite, hein, c'est du rap français. Qui nous interprète, tu veux du clash. À tout de suite.
Tu veux du clash, tu veux du clash, tu veux du clash, dis-moi tu veux du clash. On a parfois droit à un triste spectacle. Lorsque dans le rap de petits panfrois qui se prennent le bec jack, l'un après l'autre cherchant à avoir la plus belle chat. Elles ne volent pas très haut dans cette dispute qu'on appelle clash. Mais quelles sont les raisons pour lesquelles se fâchent deux d'autres billes, il a fallu qu'un de des mecs lâche une petite allusion. Afin que ça dégénère, cache en bagarre sur du son et nous donne un de ses éternels matchs de cours de récréation, ce lieu où il émane de beaucoup de petits garçons, à peu près les mêmes vannes. Excusez la comparaison, peut-être qu'elle vous fait mal, mais vu le niveau que ces adultes ont, ça la fout en effet mal. Ils insultent leur mère, ouais, super génial. Point de vue argumentaire, il est clair et indéniable qu'ils ont oublié d'en faire un style des plus respectables lorsqu'ils font la guéguerre à coups de lyrics, ils s'écrasent. On observe l'adversaire dans le moindre détail. On espère après recherche trouver au moins d'état. De scoop de concierge, de fumeur que fièrement on étale. Et quand elles sont vraiment les nerfs, les deux énerves du main stop pour de vrai. Oh les mecs, qu'est-ce que vous nous faites là? Vous êtes tous les deux mauvais quand il faut redonner de l'éclat. À l'image délabrée, quand dure le rap hélas. Car aucun clash en dessous de la ceinture ne se passe avec classe. J'ai entendu dire que tu voulais le cash. Si tu cherches à t'endurcir et te défouler, sache que tu peux mire sur le ring, affronter un vrai barge, le pire des ennemis, toi qui affirmes ne pas être lâche. Aurais-tu envie de fuir, de peur que la bête se fâche? Pas du genre à s'attendrir, elle frappe avec une telle rage, sans jamais se retenir. Alors si tu n'as pas de message, que tu ne sais pas quoi dire, faudra juste que tu dégages. Car il faut de l'entraînement pour aller se battre. Contre cette chose qui ne fait pas de sentiments, sème le désespoir. J'ai tant de gens les obligeant à baisser les bras, les résignant, les humiliant. Mais toi es-tu assez brave pour lui rentrer dedans et lui laisser des traces, en lui balançant des arguments en pleine face, assez consistant pour qu'on se rappelle ne serait-ce que l'espace d'un instant, que ça fait si longtemps que dure le règne de cette face. En attendant, c'est pourtant elle qui terrasse allègrement ce dont les lyrics se prélassent dans des affrontements stériles pour la première place, au lieu de s'en prendre au plus grand ennemi, celui le plus néfaste. Même si, ne serait-il pas plus judicieux que tu prennes part à une lutte plus ambitieuse, car on ne sait jamais ce que prépare ce futur péril. Si tu ne savais pas depuis le départ ce que tu ferais mieux d'affronter, c'est de la réalité que je parle.
Tu veux du clash, tu veux du clash, tu veux du clash, dis-moi tu veux du clash. Tu veux du clash, tu veux du clash, tu veux du clash.
Bien, nous sommes de nouveau sur microrebelle.fr dans l'émission Débattre la campagne, hein, diffusée simultanément sur microrebelle.fr et sur Radio Plus 104.3, la radio du bassin minier et de l'Artois. Donc nous sommes avec la France Insoumise, hein, Arnaud, Bruno, Gauthier. et nous étions en train d'aborder la question des législatives, et j'avais peut-être, puisqu'on évoquait le fait que après le premier tour des présidentielles, il y avait en quelque sorte la deuxième phase qui était les législatives, mais par ailleurs, on évoque aussi un troisième tour social, autrement dit le fait qu'au-delà de la réponse dans les urnes, il y a des initiatives à prendre, justement, hors les urnes. Est-ce que vous avez peut-être une vision sur ces aspects-là, Arnaud ?
Oui, notamment depuis l'élection d'Emmanuel Macron comme président de la République et de l'engagement qu'il a pris dès le départ, notamment sur sa réforme du Code du travail. Alors, pour ma part, je suis vraiment très, très circonspect sur le fait, pour M. Macron, de vouloir réformer absolument ce Code du travail, et notamment par voie d'ordonnance, qui est, après tout, un mode antidémocratique, qui est une prérogative apportée par notamment cette 5e République à l'initiative du chef de l'État pour lui permettre dans un laps de temps court d'opérer un maximum de réformes en dépit de toute représentativité, en dépit de tout principe démocratique et en dehors de tout débat. Et pour ça, je m'attends moi personnellement à ce qu'il existe un troisième tour, notamment pour ce qui relève de cette réforme du Code du travail et plus particulièrement de la limitation des indemnités de licenciement qui semblent être vraiment quelque chose à laquelle M. Macron semble très attaché. Et je suis très circonspect sur le fait de vouloir limiter absolument ces indemnités de licenciement. Alors, il m'est arrivé de débattre avec d'autres, notamment de gens qui appartiennent à ce mouvement En Marche, et qui me font savoir que la limitation des indemnités de licenciement est liée au fait qu'elles peuvent parfois, à l'occasion de certains contentieux dans les entreprises avec le personnel, engendrer des frais et des coûts qui mettraient en péril l'entreprise. Mais je me suis toujours interrogé de savoir pourquoi, dès lors, on n'allait pas non plus limiter les indemnités des contentieux qui résultent d'indifférents d'entreprises avec ses fournisseurs, avec ses clients, avec l'administration. Pourquoi ne vouloir limiter uniquement les indemnités que celles qui sont dues aux salariés ? Et pourquoi pas celles qui sont aussi liées à l'activité générale de l'entreprise. Ce qui, à mon avis, tend bien à démontrer qu'il y a une volonté de soumettre le salarié dans ses rapports avec l'entreprise.
Non, c'est le choix du capital.
C'est le choix du capital. Il ne faut pas se le cacher. C'est le choix du capital. Et ceci en démonstration. Il y a vraiment une volonté aujourd'hui de vouloir soumettre le salarié.
Bruno ?
Oui, nous avons vu récemment le début de la loi El Khomri, que M. Macron va amplifier aussi, les dégâts que ça peut déjà faire dans les entreprises. Je veux dire, dans les grandes entreprises qu'ils ont déjà mis en place les accords de la loi El Khomri, c'était une catastrophe aussi, et elle n'est pas encore à 100%, comment dire, mis en place à 100% dans toutes les sociétés. Les petites sociétés ne l'ont pas encore mis en place, par méconnaissance des fois, mais certains nombres ont commencé et ça va s'amplifier. Et là, il parle aussi d'amplifier les mesures, loi El Khomri, licenciement au bout d'un certain temps, flexibilisation, employabilité, je veux dire, c'est employer les gens, employabilité, c'est un mot qui est très fort, employabilité, c'est même plus, c'est un salarié, c'est employable, vous devenez employable, c'est, je veux dire, là, il faut que les gens y réfléchissent quand même.
C'est la marchandise.
On pourra aussi faire des accords en dessous de la loi et en dessous de l'accord de branche dans les sociétés. Ce sera terrible, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais syndicaliste, où déjà, on se bat quand même pour essayer de conserver l'emploi, on n'est pas là, nous, même syndicaliste, pour détruire une entreprise. On est là pour la faire vivre aussi, et vivre de son travail aussi, chaque salarié.
Arnaud ?
Petite anecdote aussi, il faut s'attendre, et ça c'est à l'étude, concernant les indemnités licenciement, à ce qu'elles soient maintenant contractuellement prévues dans le contrat de travail. Faut savoir que les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui doivent s'attendre, dès lors qu'ils ont signé un contrat de travail, qu'il existera une clause dans leur contrat de travail qui disposera du montant d'indemnité qui leur sera dû en cas de licenciement abusif, c'est-à-dire qui correspond à une rupture abusive du contrat de travail. Donc il faut bien savoir, si vous nous écoutez, que vous aurez non plus à discuter dans un contrat de votre horaire de travail, du temps de travail, ni même de votre salaire, mais vous n'aurez même plus la possibilité d'obtenir des indemnités puisqu'elles seront consacrées par avance dans votre contrat de travail.
Ils pourront même mettre des provisions, les directions pourront mettre des provisions en vue de licenciement. C'est un harcèlement moral, on dira, bon, on ne prend pas de risque, on le met en provision, s'il gagne au prud'homme, mais ce sera limité. Une valeur harcèlement moral, c'est fort quand même, c'est fort. Comment pas punir quelqu'un qui a fait du harcèlement moral, qui détruit la vie de quelqu'un, d'un salarié ou d'une salariée, qui détruit sa vie parce que c'est très fort, et on dira, ben, c'est 2 000 euros.
Alors que c'est un délit, hein, le harcèlement moral est un délit, hein, tel qu'il est défini par la loi, c'est un délit, mais malgré ce délit, effectivement, l'employeur pourra voir sa peine soulagée par une clause contractuelle qui figurera dans le contrat de travail.
Gauthier ?
On voit que là, c'est la libéralisation totale du monde du travail, avec la volonté de laisser les coudées franches au patronat, au grand capital, sans la moindre contrepartie pour le salarié. Et notamment ces termes d'ubérisation qui normalement devraient faire grincer des dents, devraient faire peur à tout le monde, parce que là c'est la volonté même de déconstruire ce qu'est le salariat, tout simplement, de rendre les gens tout simplement propriétaires de leur propre entreprise et de devoir s'offrir devoir réduire ses coûts pour pouvoir s'offrir le moindre contrat et être du coup sous certains aspects salariés, donc rattachés à une et une seule entreprise, mais sans la moindre protection de l'emploi et ni la protection de la sécurité sociale.
D'ailleurs, est-ce que quand je vous entends évoquer tous ces exemples, hein, qui finalement sont des agressions extrêmement fortes contre le monde du travail, contre la vie des gens d'une manière très générale, est-ce que ça, ce sont des choses qui sont discutées au sein des groupes de la France Insoumise. Est-ce qu'il pourrait y avoir des perspectives de participer à des luttes de la France Insoumise sur ces questions-là ?
Bien sûr. Pour ce qui nous concerne, on reste mobilisés, effectivement, sur ces thèmes. C'est pour nous l'occasion de discussion, de participation également à des actions très précises dans les entreprises. Et il nous faut présent et persuader les gens tout le temps du risque qu'ils prennent aujourd'hui à faire évoluer leur courant de pensée vers ces moyens nouveaux un petit peu sur l'ubérisation, sur les lois dites de modernité, sur cette notion de progressisme qu'on entend ici et là, qui ne sont en fin de compte que des trompe-l'œil, hein, c'est uniquement un nouveau langage technocratique de marketing qui ne servent qu'à tromper les gens, c'est tout. Et ne vous laissez pas tromper. Aujourd'hui, il y a une volonté pour le capital et pour les grands groupes de reprendre la main sur l'entreprise et de minimiser le rôle des syndicats, le rôle de protection qui est apporté jusqu'ici par les différentes instances comme les CHSCT, comme les délégués du personnel et les représentants syndicaux. Il y a une volonté de la part de l'entreprise, effectivement, d'amener tout ça au plus bas possible.
Très bien, mais il nous reste très très peu de temps pour conclure cette émission. Donc je ne vais pas vous poser une question qui va nécessiter de grands débats, mais peut-être de manière très concrète. Qu'est-ce que on pourrait donner à nos auditrices, à nos auditeurs, comme information pour qu'ils puissent continuer à rester en contact avec la France Insoumise, pour qu'ils puissent éventuellement rejoindre les groupes d'appui de la France Insoumise? Est-ce qu'il y a des informations que vous pourriez communiquer juste avant qu'on ne conclue? Très rapidement. Oui. Bruno ?
Donc, ce qu'on va dire, c'est qu'il faut nous fédérer, que les personnes qui se sentent citoyens et qui veulent se battre auprès de nous, hein, c'est de rejoindre les groupes d'appui sur jlm.2017. Il y a les groupes d'appui qui sont dans chaque coin, Béthune, Brouvet, Saint-Paul, hein, il y en a plusieurs à droite, à gauche, hein, il suffit d'un clic. Un clic, marquer le nom, je rejoins le groupe d'appui, et on fait le reste derrière pour prévenir des réunions, des interventions,
des événements
qui sont sur cette plateforme.
Très bien, merci Bruno, merci Gauthier, merci Arnaud.
Merci, Lucien,
merci à vos groupes d'appui d'avoir accepté de participer à débattre la campagne. On vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, à chaque fois sur microrebelle.fr et sur Radio Plus 104.3, la radio du bassin minier de l'Artois. Bonne continuation à toutes et à tous, à très bientôt.